Bonjour à tous, il est midi, ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
Karine Bellichat.
À la une, la Syrie post-Assad tente de gagner la confiance des diplomaties régionales et occidentales, mais aussi celle des minorités du pays. Après les promesses, les chrétiens attendent des preuves du nouveau pouvoir dominé par les islamistes. En Équateur, qui est le calife ? La vice-présidente dit qu'elle prendra la place du président aujourd'hui, conformément à la Constitution, car Daniel Noboa se présente à nouveau à la présidentielle. Mais le camp du chef de l'État n'est pas du tout d'accord. Christophe Paget nous expliquera ce bras de fer. Et puis Marine Le Pen attendue à Mayotte pour une visite de 2 jours. La chef du Rassemblement National à l'Assemblée devrait être bien accueillie sur l'île, toujours dévastée après le passage du cyclone Chido il y a 1 mois. En Syrie, la situation est loin d'être stabilisée, notamment dans le nord du pays. Selon l'ONG OSDH, les combats entre les groupes armés soutenus par la Turquie et les forces kurdes syriennes ont fait 100 de morts ces 2 derniers jours. L'objectif des factions pro-turques est de chasser les Kurdes de la région. Dans la capitale syrienne, la transition s'organise. Les attentes vis-à-vis du nouveau pouvoir sont grandes et les minorités religieuses s'inquiètent. Le nouvel effort de Damas est un ancien combattant d'Al-Qaïda, avant d'avoir rompu avec le groupe djihadiste, Ahmad al-Sharaa promet désormais de bâtir une Syrie tolérante et inclusive. À Homs, dans le centre du pays, les chrétiens attendent de voir si les paroles sont suivies des faits. Reportage d'Abla Junaidi.
Au cœur de la vieille ville, les immeubles en pierre sombre et le charme des petites ruelles laissent souvent place aux traces des destructions causées par les bombardements du régime. Nombreux sont les habitants qui ont déserté le quartier au plus fort de la guerre, pas ces 2 sœurs qui désormais doutent.
Nous sommes dans l'inconnu, on ne sait pas à quoi s'attendre, donc on vit au jour le jour. On se dit qu'aujourd'hui on se sent en sécurité et on remercie Dieu. Mais demain, on n'en sait rien. Quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas partis d'ici car c'est notre région, notre maison et notre vie. Cela nous suffit d'être ensemble. À la fin, on sort de chez soi et on implore Dieu. C'est donc qu'on s'en remet à lui, alors laissons-le faire.
Dans sa petite boutique, Fada ne regrette pas l'ancien régime qui se présentait comme protecteur des minorités. Elle peut enfin sortir librement de chez elle. Les hommes de Hayat Tahrir al-Sham ne la gênent pas.
Non, au contraire, ils passent toute la journée devant ma boutique. Je les vois en sortant faire mes courses. Ils sont très respectueux. Dans notre quartier, El Hamidiyeh, on a essentiellement des musulmans et des chrétiens.
Ailleurs, dans les quartiers alaouites, la minorité dont faisait partie le clan Assad, des opérations de désarmement des anciens soldats et miliciens du régime déchu se poursuivent. Leurs échos lointains parviennent jusqu'à Al-Hamidiyeh. Abla Junaidi, Homs, RFI.
La vidéo non datée du Hamas dure 3 minutes et demie. Liri Albag, otage israélien de 19 ans, demande à son gouvernement d'agir pour obtenir sa libération. Une demande réitérée par des milliers de manifestants réunis comme tous les samedis soirs pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza et le retour de tous les otages. Hier, les autorités israéliennes avaient confirmé la reprise des négociations indirectes avec le mouvement islamiste palestinien à Doha. En attendant, pas de répit à Gaza. 88 personnes ont été tués en 24 heures par des frappes israéliennes dans l'enclave palestinienne. Sur un autre front, avec le Liban, Israël accuse le Hezbollah de violer l'accord de trêve conclu fin novembre. Les autorités de l'État hébreu menacent d'agir avec force contre le groupe chiite libanais. Joe Biden a choisi d'attribuer avec un soin tout particulier la prestigieuse médaille de la liberté à quelques jours de l'investiture de Donald Trump. L'encore président américain en exercice a décidé notamment de décorer la primatologue Jane Goodall, mais aussi George Soros, haï par le camp républicain, ou encore Hillary Clinton, candidate démocrate battue par Donald Trump en 2016. En Équateur, la bataille au sommet de l'État bat son plein. La vice-présidente Veronica Abad a affirmé hier qu'elle assumait dès aujourd'hui la présidence du pays, conformément à la Constitution, car le président Daniel Noboa est candidat à la présidentielle du 9 février. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Le candidat présidentiel est loin d'être d'accord.
Oui, la Constitution prévoit que le président se mette en congé pour faire campagne, mais Daniel Noboa n'aurait pas à le faire, estime son entourage. Précisons que d'abord, ce n'est pas obligatoire, et puis que Daniel Noboa a été élu en 2023 pour terminer le mandat de son prédécesseur Guillermo Lasso. On ne serait donc pas dans le cas d'une réélection. Depuis le début de leur mandat, le président et la vice-présidente ne s'entendent pas. Pour l'éloigner, Daniel Noboa a d'abord envoyé Véronica Abad en Israël comme ambassadrice, puis après l'avoir relevé de ses fonctions en Turquie. Mais Véronica Abad ne s'est pas rendue à Ankara, disant être victime d'un bannissement. Le président l'a alors suspendu temporairement et remplacé. La suspension a ensuite été annulée par un juge. Bref, le torchon brûle. Et maintenant, Véronica Abad affirme qu'elle va remplacer Daniel Noboa à la présidence jusqu'au 9 février. Et elle demande aux forces armées de l'appuyer, de respecter le système juridique et à l'organisation des États américains d'agir énergiquement face à toute éventuelle tentative de coup d'État contre la présidente, c'est-à-dire contre elle. Réponse du commandement conjoint des forces armées équatoriennes. Nous ne la reconnaîtrons pas comme présidente. Avec cette précision, Véronica Abad est toujours attendue en Turquie.
Christophe Paget du service international de RFI. En France, Marine Le Pen entame aujourd'hui une visite de 2 jours à Mayotte, 1 mois après le passage du cyclone Chido. La chef de file du Rassemblement national à l'Assemblée prévoit de rencontrer les secouristes et les sinistrés. Un déplacement dans l'île qui intervient après celui du président Macron et du premier ministre François Bayrou. Raphaël Delvolvé, la leader d'extrême droite, est souvent, elle, bien accueillie dans le 101e département français.
Peu de chance de voir Marine Le Pen conspuée comme le fut Emmanuel Macron il y a 2 semaines. Dans l'archipel, le RN enchaîne les cartons électoraux dernièrement. 52% aux européennes l'an dernier, 59% au second tour de la dernière présidentielle. Un terrain idéal pour s'afficher en chef de l'opposition sur cette île à laquelle Marine Le Pen clame régulièrement son attachement, comme mardi dernier dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et dédiée spécialement aux Mahorais pour la nouvelle année.
Nous avons pour vous une affection immense et nous souffrons de ne rien pouvoir faire puisque nous ne sommes pas en situation de gouverner le pays et donc de prendre des décisions.
Sur place, Marine Le Pen voudra montrer qu'elle comprend la détresse des habitants d'un territoire dévasté par le cyclone, mais aussi s'engager à mettre la pression pour que les mesures promises par François Bayrou se concrétisent.
Les députés du Rassemblement national feront tout ce qui est en leur pouvoir pour accélérer l'aide dont vous avez besoin.
Ce voyage est aussi évidemment l'occasion d'enfoncer le clou sur la question migratoire très prégnante à Mayotte et thème de prédilection du Rassemblement national, ce qui explique d'ailleurs en grande partie la popularité de Marine Le Pen dans l'océan Indien.
Le film Emilia Pérez va-t-il confirmer son succès annoncé aux Golden Globes avant les Oscars ? Réponse ce soir lors de la cérémonie à Los Angeles. La comédie musicale de Jacques Audiard part favorite avec pas moins de 10 nominations dont meilleur comédien, meilleur réalisateur et meilleure actrice pour Carla Sofia Gascón. Dans le rôle titre, Emilia Pérez raconte la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain. La doyenne de l'humanité est décédée. Il s'agit d'une japonaise, Tomiko Itoka. Elle avait 116 ans. Elle vivait dans le sud du Japon, un pays où les centenaires sont nombreux. À Tokyo, Frédéric Charles.
Au Japon, une doyenne de l'humanité en cache souvent une autre. C'est le pays industrialisé où l'on vit le plus vieux. Le nombre de ses centenaires prolifère. Il en compte plus de 4000 par an. Tomiko Itoka, née à Osaka, aura tout connu. Des guerres, des pandémies, des tremblements de terre, le réchauffement climatique. Elle était inoxydable. Dans sa jeunesse, elle est joueuse de volley-ball. À 20 ans, elle se marie. Octogénaire, elle escalade plusieurs montagnes. Ce n'est qu'à 110 ans qu'elle entre dans une maison de retraite. Le secret de sa longévité exceptionnelle, une vie active jusqu'au bout, intégrée dans la communauté. Un corps, un esprit fonctionnel, jusqu'à son dernier souffle. Un régime diététique adapté, riz, poisson, soja. Une affection pour les bananes et le kalpis, une boisson à base de ferments lactiques. Le maire de sa ville, un jeune 27 ans, Ryosuke Takeshima, dit « Notre doyenne Tomiko nous a donné de l'espoir tout au long de sa vie. » Certes, mais pour l'État japonais, ce déluge de centenaires coûte cher. La tradition veut qu'il leur accorde une coupe en argent massif. Pour faire des économies, l'État réduit la taille des coupes qu'il leur offre. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Un mot du Vendée Globe pour refermer ce journal. Le duel entre Charlie Dalin et Johan Richomme se poursuit. En 24 heures, l'écart est resté quasiment le même entre les deux skippers en tête de la course, en solitaire, autour du monde. Charlie Dalin est toujours leader avec des vents plus soutenus. Il s'éloigne du Brésil et devrait dépasser l'Équateur cet après-midi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté.